Calade.
Calade.
Ma radio.
Collectif. Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission collectif Calade, l'émission collective de Calade Ma Radio, une émission ouverte à tous les bénévoles et peut-être d'ici peu ouverte également à tous les auditeurs. C'est un rendez-vous mensuel qu'on vous propose avec chaque mois une thématique et chacun participe à sa manière comme il le souhaite. Toujours en lien avec cette thématique et pour cette première émission enregistrée au mois de septembre, émission de rentrée, même si elle sera diffusée en octobre, et ben j'ai choisi de façon arbitraire le thème du travail. Et parmi les équipes de la radio sont venues participer à cette émission aujourd'hui Carole alias Marie Magolone, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Richard de Calade de Jazz.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Jean-Pierre Chantin qui nous vient de l'Académie des... La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est ça?
C'est ça, oui, bonjour à tous.
Georges Botton de la 101ème.
Bonjour Mathieu.
André de Calade Jazz et des BB Queen et de plein d'autres choses aussi.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et Patrick, le président de Radio Calade. Bonjour Patrick.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et pour commencer cette émission collective, alors l'idée c'était que chacun venait avec ce qu'il avait envie quand on vous proposait le thème du travail. Et donc on donne la parole à Carole pour commencer. Qu'est-ce que tu nous as concocté?
Alors, suite au sujet que tu as choisi, j'ai voulu présenter la série documentaire Working, passer sa vie à la gagner. Barack Obama et sa femme sont producteurs de cette série, mais c'est lui qui parle et qui rencontre et qui nous présente les personnes que l'on découvre dans les 4 épisodes.
D'accord.
Donc c'est une série dans laquelle nous rencontrons des travailleurs au travers de portraits de personnes, du bas, du milieu et du haut de l'échelle sociale, et ce, dans tout le pays également, donc à travers les États-Unis.
Ok, toutes sortes de travailleurs de tout milieu, c'est en combien d'épisodes?
4 épisodes.
Okay.
Et on les suit au travers de leur journée de travail, en quelque sorte.
D'accord.
Donc, dans le premier épisode, Barack Obama revient sur le livre de Scott Sterkel, qu'il a trouvé à la bibliothèque de la fac durant ses études. C'est un livre de recueil avec des gens de tout horizon, à qui on a voulu demander à des gens ordinaires ce que le travail représentait pour eux. Il décide donc de faire un peu le même parcours que Scott Sterkel, avec cette série sur le monde du travail aujourd'hui aux USA. Ensuite, Barack Obama évoque le travail au travers des époques aux USA, jusque dans les années 70, qui marquent l'automatisation, le commerce international et la délocalisation de certaines industries. Ce fut plein de bouleversements et un raz-de-marée sur les gens, car ensuite le profit devient roi.
C'est l'histoire du capitalisme.
Voilà, complètement. Et du libéralisme. Aujourd'hui, un nouveau raz-de-marée arrive avec l'intelligence artificielle qui va bouleverser à nouveau les emplois et le monde du travail. On en a vu un exemple dernièrement en France, où l'intelligence artificielle va remplacer certains employés.
Ouais, on entend déjà parler. Ouais.
Voilà, donc c'est du concret. Donc au travers de portraits de travailleurs, du bas au milieu et du haut de l'échelle sociale, Barack Obama rencontre et nous présente ce que peuvent être les emplois actuels aux États-Unis.
D'accord.
Hommes et femmes, bien sûr.
Ok, et alors on va suivre quel type de travailleurs, parce que c'est très vaste.
Oui,
le monde du
alors,
travail.
Lui commence aussi par les emplois de service.
Okay.
Donc on rencontre plusieurs personnes au cours de cette série. Alors je ne vais pas tout spoiler, parce que ça serait bien que je vous donne envie d'aller la voir. Dans un premier temps, on rencontre Elba, qui est femme de ménage au Pierre, qui est un palace de New York City, qui gagne environ 4 000 $ par mois. Elle met entre 30 et 40 minutes pour nettoyer une chambre et doit en faire une quinzaine par jour. On découvre avec elle le poids des syndicats qui les aident et qui se battent pour eux. Elle ne se plaint pas, elle aime son métier et avec son mari, ils travaillent tous les deux au Pierre. Puis vient Carmen. Alors elle, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Elle cumule plusieurs jobs pour s'en sortir, comme celui de livreuse, de commande et de course à Pittsburgh, où elle ne gagne même pas 7,50 $ de l'heure, qui est le salaire minimum aux USA. Elle a un diplôme de dentiste et gagnait 30 $ de l'heure, ce qui était beaucoup plus, mais n'exerce plus suite à une blessure. Son rêve est de devenir maquilleuse professionnelle, où elle peut gagner jusqu'à 1 000 $ par jour, sur un mariage par exemple. Elle a suivi une formation et donc elle a créé aussi sa boîte pour essayer de s'en sortir, et donc c'est une reconversion. Ensuite, on rencontre Randy, qui est mère célibataire, qui peine à joindre les deux bouts et qui vit dans une zone rurale où il n'y a pas grand-chose. Elle veut aider les gens et donner un sens à sa vie et voulait être infirmière. Mais elle se retrouve aide à domicile avec At Home Care et elle ne touche que 9 $ de l'heure. Dans l'usine de poulet, pour vraiment vous faire comprendre comment ça fonctionne, elle touchait 15 $ de l'heure. Mais évidemment, ça ne lui convenait pas, parce que découper du poulet toute la journée,
ouais.
C'est pas très cool. C'est pas marrant. C'est physiquement.
Oui, c'est un
c'est
travail
très dur,
répétitif.
Voilà, et puis on est au froid, donc c'est pas top. Avec At Home Care, tout est géré par une appli. Donc c'est un peu. inhumain. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était complètement
C'est inhumain. L'appli qui lui dit quelle tâche elle doit faire, à quel moment.
Alors, il faut qu'elle s'enregistre le matin quand elle part, qu'elle rentre là où elle va. Une fois qu'elle est arrivée, il faut qu'elle rebipe. Quand elle part, pareil. Donc, tout est, en fin de compte, conditionné par l'appli parce que ça permet de la payer. Mais certains trajets ne sont pas pris en compte, soit parce qu'elle oublie de les noter, soit parce qu'ils ne sont pas pris en compte parce que c'est des courses qu'elle accepte de faire pour les personnes âgées chez qui elle va. Donc, c'est un peu l'exploitation, malheureusement, et c'est des postes qui sont hyper importants.
C'est l'esclavage moderne, ça.
Complètement, on est d'accord.
À travers une application.
Alors, au départ, le At Home Care, c'est vraiment une bonne idée, ça vient avec l'Obamacare, c'est financé, mais depuis le Covid, il y a eu une énorme coupe dans les budgets, donc on se rend bien compte que c'est encore le parent pauvre et que ces jobs qui sont hyper importants ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Donc elle quitte son job, car on lui demande d'enchaîner les interventions et elle ne peut plus s'occuper de sa petite fille. Au McDo, elle touchait plus. Donc ça aussi, je trouve que c'est... ça en dit long. Ouais. Parce que, voilà, un comble...
C'est serveuse au McDo...
Voilà, on touche plus qu'en étant aide à domicile. Donc quand on connaît l'importance des métiers de service à la personne, et chez nous, on peut faire le pendant, on va trouver les mêmes problématiques de financement, de salaire et de conditions de travail. Quand elle fait ses courses avec Barack Obama, elle lui explique qu'elle gagne 10 dollars de l'heure. Donc là, elle a changé. Elle travaille avec des handicapés. Mais pour une boîte de céréales, en gros, il lui faut travailler une heure.
D'accord.
Donc, ça donne le rapport de comment elle peut s'en sortir.
Ouais.
Donc, c'est encore très compliqué pour elle. Barack Obama s'interroge et nous interroge sur ce qu'est un bon métier. Est-ce un bon salaire, de bons horaires, de la stabilité, ou qu'on se sente valorisé et apprécié? Il nous donne l'exemple d'une femme de ménage chez Kodak. Alors, ça remonte à quelques années, mais c'est vraiment parlant. Qui est devenue responsable de service grâce aux avantages de la société. Elle a pu mener des études en parallèle au fil des années. Et donc, elle a grimpé les échelons. Donc on appelle ça gravir les échelons de l'échelle sociale. Et il y a encore quelques années, c'était possible. Aujourd'hui, les agents d'entretien travaillent dans l'entreprise, mais pas pour elle. Ce sont des postes qui ont été transmis à des entreprises extérieures et les conditions de travail sont bien moins bonnes. Cela existe aussi chez nous, ce de plus en plus, c'est quand on externalise les jobs. Donc évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes et ils n'ont pas accès à tous les avantages de la société dans laquelle ils travaillent.
Ouais.
Donc après, Barack Obama revient ensuite sur le New Deal de Franklin Roosevelt, qui a mis en place la protection sociale, le salaire minimum, et explique que les États du Sud ont accepté, à condition que les ouvriers agricoles et que les employés à domicile, qui étaient souvent des gens de couleur, soient exclus du New Deal. Donc ça donnait tout de suite le ton de ce qu'on pensait d'eux. Donc c'était bien dommage, puisque pour eux, ces métiers ne valent pas qu'on leur accorde de nouveaux droits. Cela est resté dans les esprits, on n'accorde pas de bons salaires, parce qu'on l'a vu, 9 ou 7,50 $. On peine à en vivre et aujourd'hui ces métiers de service sont pourtant très utiles, mais on s'aperçoit que finalement ils sont très peu valorisés. On peut faire le parallèle chez nous, c'est pareil, on a de plus en plus de gens qui galèrent, la crise économique évidemment, on peut faire le parallèle en Europe et en France aujourd'hui, c'est pas une spécificité américaine. Alors chez nous il y a le SMIC qui garantit une base de salaire, mais les conditions de travail dans certains métiers ne sont pas meilleures. Quand je vois comment sont payées les personnes qui viennent en aide aux autres, je me dis toujours, et je le dis souvent, que le jour où on arrêtera de sous-payer les personnes les plus importantes de notre société, on aura gagné quelque chose.
Ouais.
Parce que souvent, c'est les jobs qui sont en haut de l'échelle qui gagnent bien plus, mais qui finalement ne font que récupérer la sueur de ceux qui sont en dessous d'eux. Donc c'est un peu dommage. Durant les épisodes suivants, Barack Obama rencontre des personnes de la classe moyenne, puis les dirigeants comme le patron du Pierre à New York City. On a croisé Elba, qui, elle, est femme de ménage. On va croiser les standardistes. Et on rencontre à la fin des épisodes, le dirigeant du Pierre. Donc, ça permet justement de balayer, dans cette série, toutes les échelles à travers un même hôtel, un même lieu de travail. Donc, ça, c'est intéressant parce que, justement, il y a une confrontation. On voit bien certains avantages pour certains et pas pour d'autres. Mais je dirais que le Pierre, c'est encore un palace. Il y a du respect vis-à-vis des employés. Enfin, c'est pas l'exemple dans les épisodes et dans la série qui est le
plus révoltant.
Non, non. Au contraire, je trouve que même ça se passe pas trop mal. Ces personnes vivent mieux, ceux de la classe moyenne, mais ils remarquent que la classe moyenne actuelle peut vivre avec 30 000 dollars ou 230 000 dollars par an. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme fourchette.
La classe moyenne est très large. Quoi.
Voilà, elle est très très large et ça dépend où on vit. Si vous vivez à New York, il vaut mieux avoir 230 000 que 30 000. Donc on peut aisément aussi faire le parallèle ici en France, puisqu'à Paris, les loyers sont très élevés par exemple. Et donc Barack Obama revient sur l'immobilier, puisque c'est vraiment flagrant au niveau des chiffres. Pour acheter une maison aux USA, par exemple, il fallait le double d'un salaire annuel. Aujourd'hui, c'est 6 fois plus. Chez nous, c'est pareil, ça a énormément augmenté. Le Beaujolais n'est pas épargné. Les frais d'études aux USA ont été multipliés par 3. Et les frais de garde d'enfants ont pris plus de 200%.
Sur combien d'années ?
Ces 30 dernières années, on va dire.
D'accord.
Peut-être même un peu plus, mais bon, c'est énorme, quoi. Ouais. De toute façon, c'est énorme. Grâce à cette série, qu'on peut facilement imaginer chez nous avec à peu près les mêmes conditions de travail, les mêmes résultats et les mêmes portraits, Barack Obama se demande comment faire pour changer cela. Comment son pays va évoluer pour changer cet état de fait. Car il voit bien les failles et les difficultés d'un tel système. Il est inquiet pour les milléniaux, qui sont sans doute les premiers à vivre moins bien que leurs parents, du fait de l'augmentation de tous les coûts de la vie et de la non-augmentation des salaires. Pardon.
Ouais.
C'est-à-dire que tout augmente, sauf les salaires. Et chez nous, c'est pareil.
Bah, on le voit bien.
Voilà, on le voit bien, on est en plein dedans avec la crise économique. Le travail doit permettre de gagner sa vie. Si en plus on y est épanoui, c'est génial. Mais ne soyons pas dupes et voyons la réalité en face. Ce n'est pas le cas de la plupart des travailleurs. On le voit avec les démissions qui sont très élevées ces derniers mois chez nous en France. Le point positif est que la croissance est présente malgré la crise. C'est vrai que notre taux de chômage, puisque je fais le parallèle avec la France, il est très bas en ce moment. Mmh. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on recrute.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire derrière
La précarité.
Alors, tout dépend, voilà, les postes qui sont effectivement en ce moment sur le marché. Est-ce que ce sont des métiers qualifiés ou des métiers non qualifiés? La question... reste en suspens, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un peu des deux.
J'invite à aller écouter une excellente rubrique du prof Patrick qui a été faite sur la question des chiffres du chômage dans l'émission Ensemble sur Calade. Elle doit avoir presque un an. Que les chiffres du chômage diminuent, mais les métiers sont de plus en plus précaires, en fait.
Oui, complètement.
Et donc, est-ce que ça vaut le coup?
Ouais, voilà. Quand on cherche un premier job, on est bien content d'en avoir un, mais c'est vrai qu'il n'est pas intéressant.
C'est pratique pour les politiques pour dire le taux de chômage
voilà,
n'a jamais été aussi bas.
Complètement, c'est vrai. Donc, l'augmentation de tous les prix, du coût de la vie, la stagnation des salaires entraîne des difficultés, même chez les classes moyennes aujourd'hui, on le voit aussi. Avec cette série, on s'interroge aussi sur son propre job, sur ses conditions de travail et sur la finalité du travail. Mais, moi, ce que j'espère surtout, c'est vous avoir donné envie de la découvrir par vous-même.
Mmh.
Voilà.
Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette série?
Alors, Working, passer sa vie à la gagner.
Ouais.
Et c'est vraiment Barack Obama qui présente le truc et qui rencontre vraiment les gens. Et je trouve ça génial, justement, qu'un président, enfin, un ancien président... alors, il a toujours été au devant des Américains, mais là, je trouve que c'est intéressant parce qu'il met vraiment en lumière les inégalités, tout simplement.
Bah déjà, le titre annonce la couleur. Passer sa vie à la gagner, c'est...
Oui, et puis, quand on voit les personnes qu'il a interrogées, effectivement, on comprend mieux.
Ouais. Merci voilà. Beaucoup, Carole.
Merci à vous.
On continue dans cette émission collectif Calade. Richard, je te donne la parole. Tu veux nous présenter un morceau?
Alors, moi, j'ai choisi effectivement une chanson. Après une intense réflexion, j'hésitais entre des chansons soit sur un métier, soit plus généraliste, ou rester dans le côté un peu humoristique, dans la joie et la bonne humeur, avec des chansons légères comme « Merci patron » des Charlots, « Il fait trop beau pour travailler » des Parisiennes, « Petit métier » de Juliette, intéressant, ou des chansons peut-être plus prenantes comme « Adieu monsieur le professeur » de Hugo Frey, surtout en cette rentrée scolaire, ou alors un métier plus précis, « Le plombier » de Pierre Perret. Voilà. Finalement, non, j'ai choisi Bernard Lavilliers, « Les mains d'or ». Pour moi, c'est une chanson qui fait partie de notre vie de travailleur, avec des mots justes et forts, et surtout avec une musique qui nous fait bouger. Alors je te laisse lancer, Mathieu.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. virait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Bernard Lavillier sur Calade avec donc ce titre Les mains d'or, c'est ce qu'a choisi de nous faire écouter Richard.
Calade, ma radio.
Bon, travailler encore, c'était le titre, c'était oui, le refrain de cette émission.
Mais parce que
de
cette moi personnellement, je suis à la retraite, alors j'ai encore envie de travailler peut-être.
Je crois que je suis entouré de retraités là, ceux qui restent dans le studio.
Ah là, oui, je comprends.
On est entre retraités. Bon, pas encore. C'est au tour de Jean-Pierre du coup de prendre la parole.
Ah ben un peu d'histoire alors.
Un petit peu d'histoire.
Ah ouais, le prof d'histoire, même retraité, c'est toujours de l'histoire. Oui, c'est intéressant parce que cette notion de travail, en fait, elle a changé de sens. Mais enfin, vous allez voir, elle a changé de sens et l'ancien sens, il reste quand même.
Ouais.
En fait, quand on va commencer par l'étymologie, hein, c'est le truc qu'on fait d'habitude. Et l'étymologie latine, c'est tripalium. Le tripalium, c'était un objet à trois pieux, un engin à trois pieux, qui servait à soigner les animaux ou à torturer les esclaves.
D'accord.
Et ça donnait le mot travail.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'au début, la notion de travail, elle n'était pas très bien perçue. Enfin, c'était plutôt, on disait aussi en latin, labor. Et labor, ça donne labeur.
Oui.
Et le labeur, c'est pas, ça peut être le labeur harassant, mais c'est aussi une connotation un peu péjorative, ou du moins pas très bonne. Et donc au début, c'était ça, une corvée, en fait. Travailler, c'était une corvée.
Ouais.
Et en général, c'était réservé aux esclaves. Alors les vrais esclaves, hein, sont ceux qu'on vendait, qu'on reproduisait, on les faisait reproduire entre eux, on regardait leurs dents, etc. Pas le sens d'esclave parce qu'on travaille, le sens d'esclave. Objets.
Des marchandises humaines.
Ouais. Aristote, il disait que c'était des objets animés, ouais. Les esclaves. Donc, ouais. C'était même pas des hommes. Voilà. Bon, bah, eux, ils peuvent travailler, c'est pas grave. Par contre, si on peut, l'élite, elle travaille pas.
Ouais.
Ou alors, si on fait une activité, à ce moment, on dit pas travail, c'est pour se nourrir. Donc, c'est normal. Voilà. Mais le vrai travail pénible, c'est réservé aux esclaves. Dans l'Antiquité, c'est un mal nécessaire. Et puis, il distingue quand même deux choses. Il y a le travail qui élève l'esprit. Hein, on travaille du chapeau, mais enfin, dans le bon sens du terme. Donc c'est praxis en latin. Et puis il y a l'activité pour vivre, c'est paiesis. Donc voilà, leur notion de travail était un peu à géométrie variable. Bon, voilà, c'était quand même pas très 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 positif.
D'accord.
Et puis on en rajoute une couche avec le christianisme. Je vous rappelle que Dieu se repose le septième jour. Hein, il travaille pendant six jours pour créer le monde, mais il se repose le septième jour. Et je vous rappelle surtout que l'homme, il est chassé du paradis terrestre, hein, où il était super bien, il faisait rien, il travaillait pas. Mais justement, en étant chassé du paradis terrestre, hein, puisque avec Ève, ils ont fauté, ils ont comme punition le devoir de travailler. D'ailleurs, dans la Bible, il y a marqué « Tu auras beaucoup de peine à tirer la nourriture du sol.
Ouais. » Ouais.
Donc, le...
C'est une punition.
C'est une punition, parce que sinon, c'est un être parfait. Puisqu'il est imparfait, eh ben, il va mourir, déjà, ouais. Et il va peiner pour pouvoir manger. Donc voilà, on est vraiment dans le côté travail pas top, hein, c'est quand même pas rigolo. D'ailleurs, au Moyen-Âge, ça va continuer, hein, parce que je vous rappelle qu'en Occident, du moins, la société est divisée en trois ordres. Un petit cours de rappel pour ceux qui n'ont pas oublié leur cours. Donc, il y avait le premier ordre, le clergé, qui prie pour les autres. Il y a la noblesse qui se bat pour les autres. Et puis, le troisième ordre, qui n'a pas de nom, qu'on appelle le tiers-état, bah, lui, il travaille, en fait. Donc, il y a les privilégiés, et les autres, eux, ils vont travailler de leurs mains pour subvenir à leurs besoins et pour survenir aux besoins des autres. Mais... ce travail, c'est aussi à ce moment-là que le mot « travail » devient en français ce qu'il est. Mais c'est aussi employé, je vous rappelle aussi, dans le sens de travail pour les femmes quand elles accouchent.
Ah ouais.
Et donc on a encore ce sens de douleur, de mauvais travail, de quelque chose qui apporte de la peine. Bon, alors quand même, au Moyen-Âge, il faut quand même dire que les moines, ils travaillent dans leur monastère, mais ils travaillent pour eux et pour prier. Mmh. Ça permet de vivre. En autonomie, et puis aussi on travaille de ses mains, donc ça permet de prier. Il ne faut pas faire un travail intellectuel, sinon oui, recopie des textes, hein, comme on connaît. Voilà, pour le travail, ça c'est jusqu'au Moyen-Âge, donc pas un terme très 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 positif.
Ouais.
Et le changement, il va arriver au 15e siècle. Ouais. Alors pourquoi 15e siècle, hein, on est au moment où des découvertes de Christophe Colomb, 1492, mais on est au moment aussi où les villes se sont développées, où on a un réseau qui se fait et beaucoup d'activités marchandes. Et les gens vont commencer à s'enrichir, alors pas forcément avec des grandes fortunes, mais par l'artisanat. Hein, on va fabriquer des choses une à une et on va les vendre. Ça va se distribuer, donc on va gagner de l'argent. Et cette notion de production, hein, on va produire quelque chose et on va l'échanger, ben ça devient une notion positive. On fait une œuvre, un opus, hein, on fait une œuvre, un ouvrage. Donc l'artisan, il fait un ouvrage. Et ça, c'est plus du tout le travail au sens mauvais, le labeur, la peine. D'ailleurs, on pense que par le travail, l'artisan, il donne de la valeur à un objet.
Ouais.
Et donc le travail devient une condition sine qua non pour vivre bien et surtout pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, eh ben, ceux qui ont bien réussi dans ces choses-là, et ils apparaissent à ce moment-là, c'est la bourgeoisie. Alors la bourgeoisie au sens historique du terme, c'est-à-dire ceux qui vivent en ville, dans les bourgs, hein, et la bourgeoisie qui fait les échanges, qui a l'argent pour prêter, etc., eh ben, elle va elle aussi mettre la valeur travail comme quelque chose qui permet de gagner de l'argent. Mmh. Et on peut devenir bourgeois par son travail. Donc là, ça devient un côté intéressant, hein, et ce changement, il se fait au 15e siècle. Et d'ailleurs, au 18e siècle, hein, on continue un petit peu, on a des personnes comme Benjamin Franklin aux États-Unis, mais Jean-Jacques Rousseau en France, enfin il est suisse, mais en France, qui disent que le travail permet de réussir sa mobilité sociale.
D'accord.
Voilà, Jean-Jacques Rousseau, hein, par le travail, on peut faire une mobilité sociale, on peut s'élever dans la société et donc avoir quelque chose, être utile, hein, être utile par ça. Et ça permet d'être autonome. Par le travail, on peut être non dépendant des aristocrates qui, eux, ne travaillent pas, par exemple. Donc, voilà, on est bien dans cette diffusion de cette valeur positive du travail.
Ouais.
Et alors, ça va vraiment s'accentuer avec la Révolution française. Alors, la Révolution française, pas trop, parce qu'on a autre chose à faire que de travailler. Hein, c'est un petit peu...
Il faut couper les têtes.
Bon, je vous rappelle quand même que les ordres sont supprimés, les trois ordres sont supprimés. Donc, il n'y a plus de privilégiés qui ne travaillent pas. Hein, tout le monde est au même rang, même s'il y a des inégalités de richesse, mais... Il n'y a plus de personnes qui, par leur naissance, ne travaillent pas, les nobles. Donc elle a quand même un effet. Et puis surtout, ce qui change, c'est la révolution industrielle. Donc avec les machines, hein, machines à vapeur, fin 18e siècle en Angleterre, et puis ensuite petit à petit en Europe, d'abord par la France au 19e siècle. Et on a cette utopie que la machine, c'est un bien pour l'homme, parce qu'elle lui donne moins de travail. En fait, la machine, alors nous, maintenant, on voit la machine qui remplace les hommes, mais on voit à l'époque la machine qui va faire du travail, par exemple, les labours. Hein, le labour, bah, ce sera moins pénible. Hein, on tire avec un cheval, mais on tire aussi avec des gens. Hein, ouais. Et là, la machine va permettre d'alléger la peine du travail des hommes. Donc, il y a un côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on voit aussi que cette révolution industrielle, elle crée des inégalités sociales. Hein, parce qu'il y a certains qui vont beaucoup plus s'enrichir, bien plus qu'au Moyen-Âge, et d'autres qui vont en avoir comme seul moyen de vivre leurs mains. Mmh. Et pourquoi le travail de ses mains est moins valorisé et pourquoi on gagne moins d'argent ? Parce qu'on peut être remplacé à tout moment. Alors que quand vous avez de l'argent ou quand vous avez un savoir-faire et une technique, c'est plus dur de vous remplacer, donc vous gagnez mieux votre vie. Ça, c'est le propre du capitalisme hein, qui se met en place au 19e siècle, hein, qui repose sur des bases tout à fait naturelles. Hein, on l'oublie un peu aujourd'hui dans les grandes théories économiques, mais c'était des réalités au 19e siècle que tout le monde comprenait très bien.
Ouais.
D'où l'idée d'avoir une technique, d'être en apprentissage ou d'avoir un métier, hein, un travail qui ne suffit pas, où on a quelque chose à vendre pour être mieux payé. Donc voilà, d'ailleurs, au 19e siècle toujours, hein, alors ça reste une valeur positive. Alors je vous donne deux personnages plutôt ancrés à gauche. Hegel, hein, philosophe, qui dit « Le travail nous élève au-dessus de notre animalité. » Donc si on travaille, nous, c'est parce que nous sommes des hommes. Les animaux ne travaillent pas, on les fait travailler. Ouais. Et ils ne nous choisissent pas. Ou alors Marx, alors là, on le connaît, « Le propre de l'homme, c'est le travail. » Mais il est contre le travail aliéné qui empêche la liberté créatrice. Donc voilà, si on est soumis au travail, on ne peut pas se libérer par le travail et avoir quelque chose qui permette d'avoir une vie sociale un petit peu meilleure. Donc là, on est vraiment au 19e siècle dans une idée du travail libérateur. Mmh. Et les créations d'écoles, hein, les écoles qui, à partir de 1830, on dit Ferry 1880, mais en fait, à partir de 1830, les écoles deviennent obligatoires dans les communes. Enfin, ça se développe petit à petit, mais c'est bien l'idée que tout le monde ait accès à un savoir qui permette ensuite d'aller vers les métiers un peu plus valorisants, hein, la suppression du travail des enfants, etc. Donc il y a vraiment cette idée du travail émancipateur. Ouais. Donc c'est une valeur très très positive au 19e siècle. Et finalement, il va falloir attendre après 1945 pour que ces idées-là soient un peu remises en question. Alors avec une critique philosophique de la notion de travail, alors je vais pas vous faire des grandes courses philosophie, d'abord parce que je suis historien, mais enfin bon, un petit peu. Alors juste deux petites choses pour donner un peu l'idée. Alors après 1945, par exemple, il y a quelqu'un comme Guy Debord, qui écrit en 1953 « Ne travaillez jamais ». Donc là, on change complètement d'optique. Ou alors, après 1968, les contestations du travail... C'est parce qu'on conteste le travail qui va aliéner et empêcher d'être libre. Donc ne travaillons pas, hein, parce que sans travailler, on sera beaucoup plus libre. Et ça, c'est un mouvement qu'on appelle les anarchistes décroissants, hein, déjà, dans les années 70. Il faut réduire la consommation, c'est leur idée, en réduisant le travail, parce que le travail, il aliène et il soumet à l'argent. Après, ça peut se discuter, hein, comment sans argent être libre, etc. Enfin bon, c'est une discussion intéressante. Bon, puis je ne vais pas venir jusqu'à aujourd'hui, mais enfin, je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un en politique a dit qu'on avait le droit à la paresse. Donc vous voyez que tout ça, c'est finalement des histoires d'aller-retour, comme souvent, hein, des notions. Et finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, les deux notions restent. Par le travail, on peut peut-être faire des choses intéressantes, intéressantes intellectuellement, intéressantes en s'élevant par un petit peu d'argent ou un peu plus. Et puis le travail, c'est aussi, ça empêche la liberté, parce qu'on est tous les jours au travail, etc. Donc les deux, finalement, continuent à cohabiter, mais vous voyez que c'est une longue histoire qui date de nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais les Romains.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Bosse 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers de il me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé.
Tu parles.
Rien faire, c'est la conserver. Les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux.
Salvador sur Calade avec le travail, c'est la santé évidemment.
Calade, ma radio. Différente, curieuse et indépendante.
Allez, on est toujours dans une émission consacrée au travail, oui André.
Juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que ça doit être la santé parce qu'on est tous retraités, on est tous en bonne santé. Petite remarque.
Donc émission aujourd'hui consacrée au travail, on a choisi le thème du travail et chaque membre de la radio était invité à venir participer à sa manière. Et c'est au tour de Georges de prendre la parole.
Alors jusqu'à maintenant, on a eu des interventions très intéressantes pour parler du travail. Et je ferai une remarque au passage, j'ai beaucoup apprécié d'apprendre que les moines travaillaient, surtout parce qu'ils nous produisent la chartreuse. Ça fait vraiment plaisir. Mais alors moi, je vais vous emmener, amis auditrices, amis auditeurs, je vais vous emmener dans l'imaginaire. Je vais vous parler d'une légende qui sévit aux États-Unis, en particulier dans le sud des États-Unis. C'est l'histoire de John Henry. Cette légende raconte que c'était John Henry, c'était un esclave né dans les années 1840 dans le Missouri. Alors là, je fais une petite parenthèse, j'ai fait un petit pas calcul, une petite soustraction. John Henry est né en 1840. L'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1863. Il avait donc, au moment de John Henry, il avait donc au moment de l'abolition 23 ans. Alors, je ne sais pas, 23 ans, s'il était esclave ou déjà affranchi. C'est une petite question que je me suis posée. J'ai regardé dans ma documentation, je n'ai pas trouvé. Enfin, je vous le signale quand même. Alors, John Henry, il paraît que c'est un grand costaud, un noir. Grand costaud, 1m83, 91 kilos. Mais c'est sous réserve, c'est parfaitement incertain. Bon. Alors, il travaillait à la construction des chemins de fer pour conquérir l'Ouest, en particulier pour le creusement des tunnels. Le propriétaire du chemin de fer a acheté un marteau à vapeur pour faire le travail et remplacer l'équipe d'œuvres noires. Ça correspond un peu à ce que vous venez de dire, l'évolution du matériel.
Ouais, c'est ça.
Alors John Henry, pour défendre l'emploi de son équipe, ce qui voudrait peut-être dire qu'il était contremaître, donc peut-être affrangible, enfin j'en sais rien. John Henry, pour défendre l'emploi de son équipe, a lancé un défi au propriétaire, et le défi était le suivant, il ferait un concours entre le marteau à vapeur et lui, John Henry, c'est-à-dire avec son marteau, lui, marteau qui peserait environ 9 kilos.
D'accord.
Alors John Henry a bossé comme un dingue, il a gagné le concours, mais il était complètement épuisé et il s'est écroulé et il en est mort.
Okay.
Alors cette légende, eh bien, ça symbolise et illustre la futilité de la lutte contre le progrès technique, le nouveau matériel, et qui entraîne la suppression du travail physique. Voilà, c'est la légende de John Henry qui a donné lieu à beaucoup de chansons, à des contes, à des pièces de théâtre et des romans. Alors, je vais vous donner les paroles de cette chanson qu'on va vous mettre. Mais comme, bien entendu, comme tout ce qui est folklore, patrimoine musical américain, en particulier les blues, il y a énormément de versions différentes. Alors, je vais vous dire la version que j'ai. John Henry dit à son chef, « Un homme, c'est rien qu'un homme. Mais avant que je laisse votre barrière, votre tarière me battre, je crèverai le marteau à la main. » John Henry dit à son équipier, « Eh bien, mon gars, pourquoi tu chantes pas ? Je vais te descendre 12 livres d'un seul coup. Mon gars, t'entends pas le métal qui sonne ?» John Henry forait dans les montagnes, et les montagnes étaient si hautes, et les derniers mots que je lui ai entendu dire, c'était « Donnez-moi un peu d'eau fraîche avant que je meure. » John Henry avait descendu la voie, avec son marteau de 12 livres au côté. Oui, il est descendu, mais il n'est jamais revenu. Il a laissé tomber son marteau et il est mort. Voilà, alors donc je vais vous faire mettre par Mathieu, notre sympathique technicien, le John Henry, et c'est une très belle interprétation par Paul Robson. Je vais vous dire deux mots quand même de Paul Robson, si tu permets, Mathieu.
Bah, bien sûr. Hein.
Oui, Paul Robson, c'était un très grand chanteur noir, est né le 9 avril 1898 dans le New Jersey, décédé le 23 janvier 1976 dans la Pennsylvanie. Il a donc vécu 78 ans. C'était un acteur, un chanteur, un athlète et un militant des droits civiques afro-américains. Et il a eu des sympathies pour la philosophie communiste, puisqu'il a eu différentes récompenses dans ses voyages en URSS. Paul Robson était un excellent athlète. Il a eu de nombreuses récompenses, en particulier dans le football, le baseball et la course à pied. Il a été exclu de l'université, admis à l'université de Rutgers dans le New Jersey et puis à l'université de New York. En 1923, ça a été un excellent avocat, mais il a été obligé d'abandonner à cause du racisme. Il est devenu alors acteur et chanteur, et c'est une très belle voix, vous allez pouvoir l'entendre, baryton basse. Il a eu un succès mondial. Et un répertoire, elle est interprétée, un répertoire très varié et universel. Il est revenu définitivement aux USA dans le quartier de Harlem en 1966. Il a vécu malheureusement d'isolement, de pauvreté et de maladie. Et il est décédé d'une crise cardiaque en 1976. Je fais une parenthèse pour terminer cette petite présentation. Il a toujours été accompagné d'un pianiste qui s'appelle Lawrence Brown, qui était un excellent pianiste, et qui lui a servi d'arrangeur et d'enregistreur également. Je le dis parce que c'est intéressant de voir quand les musiciens changent, qu'il y a beaucoup parfois de fidélité. Paul Robson a sorti beaucoup une grosse discographie et il a participé à 13 films. Maintenant, amis auditrices, amis auditeurs, je vous laisse écouter John Henry par Paul Robson.
John Henry was a steel-driving man, carried his hammer all the time, and before he'd let that steam drill beat him down, said he'd die with his hammer in his hand. Said he'd die with his hammer in his hand. John Henry went to the mountain top, beat that steam drill down. But the rock was high, John Henry was so small. Down his hammer and he died. Yes, he laid down his hammer and he died. John Henry had a pretty little girl, and her name was Polly Ann. And when John was laying on his bed so low,
his hammer like a man. Took and drive with his hammer like a man.
C'était donc Paul Robson avec un morceau intitulé John Henry. John Henry. Choisi par Georges, merci beaucoup pour ce morceau.
Oui, j'ai oublié de dire, c'est un enregistrement du 29 décembre 1945 à New York.
Parfait, comme ça on a toutes les infos.
Tout.
Et ben c'est au tour de Patrick de nous présenter ce qu'il a prévu pour cette émission spéciale Travail.
Voilà, moi j'ai voulu vous parler de la Société du Travail, cette magnifique société qui, ma foi, va sauver le monde entier et qui définit l'homme, alors. Le travail, donc parlons-en. Et la société du travail qui va avec, évidemment, le travail est la clé de tout, du bonheur individuel et de la paix sociale. La société du travail serait donc la seule possible, peut-être. Mais de quoi parle-t-on au juste? Le débat sur le travail se résume souvent, tristement, à une nouvelle règle. Le travail est à la fois un temps, un statut et un résultat. Allons voir un petit peu ce qui se cache derrière ces mots. Un temps, alors un temps d'abord, première remarque, le raisonnement quantitatif est absurde. Quant au débat sur les 35 heures comme source de tous les maux, par exemple, il est au mieux ringard ce débat, et probablement d'une grande mauvaise foi. Il est pourtant tenace. Or, le temps de travail n'est pas le temps au travail. La problématique de l'équilibre vie privée et vie professionnelle et le droit à la déconnexion en sont deux illustrations frappantes. Sur le statut, donc, deuxième point. Deuxième remarque aussi, le salariat n'est pas tout le travail. Il est d'ailleurs frappant de constater que ce sont les mêmes qui revendiquent la liberté d'entreprendre et qui inscrivent le salarié au cœur de leur programme de l'emploi. Présenté de cette manière, le travail n'est plus une activité, sa valeur importe peu, mais il représente un statut. C'est ce qui permet d'afficher qui compte. Voilà. J'ai un travail, donc je suis simple et efficace. Mais il y a aujourd'hui une diversité de statuts pour le travail. L'individu qui travaille n'est pas qu'un salarié ou un entrepreneur. Le travail peut s'exercer au-delà de la sphère marchande, de manière bénévole, familiale, dans le cadre d'un échange, d'un don, d'un projet éducatif. Et enfin, donc, troisième point, le statut. Troisième remarque, donc, la fin ne justifie pas forcément les moyens. La société du travail, prônée par ses partisans, est une société du labeur. Le travail permet d'éviter l'assistanat. Et l'effort est récompensé par la possibilité d'assurer soi-même son existence, en toute autonomie, grâce à un revenu. Le travail est pensé comme un moyen de subsistance, d'existence. J'ai un travail, donc je suis, donc je vis. La société du travail ne pose pas la question du sens du travail, mais celle du sens d'avoir un travail. On pourrait cependant prendre au mot l'argument principal de la société du travail. Le seul remède, c'est de travailler plus pour gagner plus. On connaît un slogan ancien maintenant, éculé, mais recyclé à l'infini. Sauf que ce supplément de travail ne vous rapportera pas automatiquement un revenu. Par exemple, chers auditeurs de Calade, si vous m'écoutez via notre site ou sur votre tablette, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en train en ce moment de fournir un travail qui va en plus créer de la richesse, mais qui ne vous apportera aucun revenu. L'apparition du travail digital implique que toute activité numérique entraîne une production de données qui sera à court ou à moyen terme génératrice d'un revenu pour ceux qui vont la collecter et non pour ceux qui en sont à l'origine. Ainsi, chers auditeurs, quoi que vous pensiez de cette chronique, c'est bon, c'est mauvais, il est nul, que vous la partagiez ou non sur un ou plusieurs réseaux sociaux, vous produisez une donnée qui permettra à la fois d'alimenter des bases gigantesques, mais également d'orienter les contenus qui vous seront proposés ultérieurement. Vous venez donc de travailler sans le savoir, et peut-être même sans le vouloir, et cela ne vous a pourtant procuré aucun salaire. Le travail, ça doit se payer, car tout travail mérite salaire, sauf que dans ce cas, celui qui produit n'est pas celui qui reçoit. Maintenant, Donc, le travail échappe largement à la sphère productive. Sauf que cette dernière est la seule valorisée socialement et politiquement. Il est donc nécessaire de changer de mode de pensée et de considérer que le travail n'est pas que le labeur qui correspond à un salaire. Tout est donc travail. Le salarié, l'entrepreneur, mais aussi l'artiste, le retraité, le chômeur, puisque nous disions qu'on faisait rien là, les chômeurs, l'étudiant, le bénévole, le militant et même l'oisif, tous travaillent. Mais pour certains, ce travail est socialement invisible ou au mieux peu valorisé, car considéré comme improductif, voire honteux. Réduire le temps de travail, instaurer un revenu universel, taxer les robots sont de bonnes idées, des bonnes pistes, car elles permettent l'extension du domaine du travail. Vaste programme. Alors, si on se mettait au travail pour changer tout ça. Pour illustrer tout cela, j'ai choisi une chanson, on en a un petit peu évoqué, soit la période de la personne dont on va parler, soit ce fameux éloge à la paresse, de la paresse de Georges Moustaki. Je vais vous mettre ça, bien entendu. Alors, dans cette chanson, sans le nommer du reste, Georges Moustaki, il rend hommage à un de ses grands maîtres de pensée, c'est Paul Lafargue. Paul Lafargue, il est né en 1842 à Cuba, il est mort en 1911 en France, la France qui était devenue son pays d'adoption, où il a fait plein de choses. Paul Lafargue était journaliste, économiste, essayiste, écrivain, franc-maçon et homme politique de gauche en France. Par son épouse, Laura, il est devenu le gendre de, on en a parlé tout à l'heure, Karl Marx. Il est surtout connu pour son livre « Le droit à la paresse », édité en 1880, un manifeste social qui parle de la valeur travail, où il montre qu'en acceptant de travailler trop, les ouvriers sont à l'origine des crises de surproduction qui secouent toute la société. L'excès d'offres et l'insuffisance de la demande contraignent les usines à fermer et mettent une bonne partie de la population ouvrière au chômage.
Je voudrais rendre grâce à celui qui peut-être a été mon premier et mon unique maître. Un philosophe mort, voici quelques décades. Mort de son propre choix, ni trop vieux, ni malade. Il n'était pas de ceux qui entrent dans l'histoire. Nous sommes peu nombreux à servir sa mémoire. Il ne se posait pas en saint ou en prophète, mais cherchait avant nous le bonheur et la fête. Il rêvait d'une vie que l'on prend par la taille, sans avoir à la gagner comme une bataille. Il disait que la terre était pleine de fruits et de pain et d'amour, et que c'était gratuit. Il parlait de ne plus jamais plier les chines, ni de se prosterner devant une machine. Il souhaitait pour les générations futures de ne souffrir jamais d'aucune courbature. Sans vouloir enseigner, sa parole était claire. En cela peut-être elle est révolutionnaire. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne nous arrivait ni d'Orient ni de Grèce. Je voudrais rendre grâce à ce maître en sagesse qui ne demandait que le droit à la paresse.
Georges Moustaki avec le droit à la paresse. Merci beaucoup Patrick pour cette chronique.
Alors, tout à l'heure on disait qu'il y avait le travail Il y avait deux parties dans le travail, il y en a une troisième avec le digital, tout ce qu'on fait. Par exemple, on va dans un centre commercial, il y a la queue aux caisses où il y a de l'humain, on va à la caisse automatique, on bosse. On va à une station service, on remplit soi-même son tchac, son réservoir, on bosse. Et puis pendant ce temps-là, les parents qui font ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des enfants, un garçon, une fille qui cherchent des boulots d'été. Eh ben, ils ne peuvent plus être caissières, ils ne peuvent plus être pompistes. Moi, j'ai été pompiste, j'ai été caissier. Je sais de quoi je parle. Terminé, les mecs. Oh, il n'y a plus de boulot pour les gamins. Si, il y a McDo. Vas-y, James. Allez.
Il y a des stations d'essence qui remettent des pompistes maintenant.
Oui,
c'est
vrai.
Ouais. C'est récent.
Ouais. Mais la machine qui remplace l'homme, c'est revenu dans au moins 4 rubriques qu'on a évoquées, peut-être même 5 avec les mains d'or aussi. Ça peut peut-être reparler. C'est au tour d'André de nous proposer quelque chose.
Oui, alors moi je vais être un peu plus léger que mes camarades, parce que le travail, quel grand nom, aussi triste qu'agréable, le travail imposé dans des conditions plus que précaires, mais aussi avec beaucoup de plaisir, lorsqu'on le joint à la passion, ne pas oublier. En effet, le travail par le passé, avec des conditions immondes, je pense à tous ces esclaves de toutes les couleurs, et aussi, plus près de nous, dans les mines, les auditeurs qui écoutent mes émissions de blues comprendront tout de suite ma position. Évidemment, c'est fait. Hein, ouais. Le blues, c'est quand même ça, voilà. Mais il y a aussi tous ceux qui travaillent par passion, il ne faut pas les oublier, et rencontrent beaucoup de plaisir. Parce que lorsqu'on est artiste, ou peu importe, lorsqu'on est par exemple même boulanger, on fait son pain, ou lorsque je vais jouer de la guitare, je travaille, comme disait Patrick, c'est toujours du travail. Mais c'est plus le même, c'est plus du tout la même notion. C'est que là, on prend énormément de plaisir à le faire. Surtout ne pas oublier ça. Donc, moi je pense que le travail, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on le chante, on le joue, et aussi on le subit. Pour moi, c'est un peu cette définition. Comment définir cette action de notre vie tellement elle est différente? Si pour certains, le travail est la santé, on a vu ça tout à l'heure, ne pas oublier toute la misère engendrée pour d'autres. Donc moi, je vais faire court. Je vais vous passer un morceau d'un groupe que tout le monde connaît, qui s'appelle les Creedence Clearwater Revival, qui nous donne un exemple de la vie quotidienne d'une jeune femme qui travaille entre Memphis et la Nouvelle-Orléans, qui a toujours les mains à la pâte, c'est quand dire, que ce soit jour et nuit, dans des conditions plus que difficiles, avec un bonhomme pas facile. Et un jour, elle est partie dans ce bateau, le Prout Mary, le bateau. Donc, elle a découvert ce bateau à aube avec la roue qui tourne tout le temps. Donc, d'où vient le titre, hein, le refrain, rouler, rouler, toujours. Elle est partie vers ce qu'elle pensait des jours meilleurs. La chanson lui dit, t'as pas d'argent, mais on va t'en donner, prends la rivière. Elle est partie sur cette rivière dans un jour meilleur. J'ai voulu finir un peu comme ça, voilà. Donc on va écouter le titre, voilà.
Et ben on écoute tout de suite.
Toute mairie des Creedence Clearwater.
Keep on.
Les Creedence Clearwater Revival, ils ont quand même un nom long et difficile à prononcer, mais ils font de la bonne musique, alors on les pardonne. Merci beaucoup André pour ce choix musical. C'était pour conclure donc cette émission consacrée au travail de collectif Calade. Rendez-vous le mois prochain, au mois d'octobre, on sera un petit peu avant Halloween. Le thème de l'émission, ce sera les fantômes. Allez-y, commencez à réfléchir à ce que vous allez
commencer à travailler
avec ce thème. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission.
Merci Mathieu.
Salut Mathieu, salut à toutes et à tous.
À bientôt.
Calade.
Calade.
Ma radio.
Collectif. 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 Calade.